Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation le dernier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières et en particulier avec un membre éminent de cette association, un de ses ex-présidents, Hervé Delouche, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Ça, je ne sais pas, ça fait imminence, mais enfin, toujours actif en tout cas.
Voilà, et en tout cas, donc, merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Nous voilà donc repartis pour une nouvelle saison radiophonique de Variation en noir. L'état d'esprit reste le même, vous faire partager des lectures et des informations autour de ces littératures policières qui nous sont chères, et plus particulièrement, Hervé, du roman noir qui nous est encore plus cher. À nouveau, merci à Bernard qui nous accueille toujours aussi gentiment dans son émission. Et pour commencer cette nouvelle saison, avant même le sommaire de notre émission, Hervé, quelques nouvelles de 813. Comment se porte l'association des amis des littératures policières ?
Bah écoute, l'association se porte bien pour ça. Enfin voilà, là, elle va avoir 37 ans, je crois, quand je pense à ça. Voilà, écoute, avec la fin de l'été, le début de l'automne a repris la saison des festivals, donc 813 était à Lille-sur-Tarn, à Villeneuve-les-Avignon, à Pau, tout récemment à Reims, où il y a un nouveau festival depuis quelques années, Interpolar, c'était assez sympathique, marrant, puisque c'est là qu'avait commencé l'aventure de 813, puisque le premier festival de polar s'était tenu à Reims en 79 et 813 s'était constitué un an après, et là-bas. Et puis voilà, et sinon, on prépare, après avoir fait un dossier western dans le dernier numéro de la revue, on en prépare une là qui va sortir en décembre, consacré à la nouvelle francophone, avec aussi une série d'interviews et de portraits d'auteurs nordiques dont on n'avait pas tellement parlé jusque-là, et un focus sur l'excellent écrivain Colin Niel, dont nous avons déjà parlé ici et qui était au Salon du Livre du 1er mai cette année.
Et les trophées bientôt aussi.
Et bientôt, il y a les trophées. Alors oui, il y a une date importante, c'est que le 2 décembre, à la Bilipo, à Paris, dans les locaux de la Bibliothèque de littérature policière, il y aura une visite de la Bilipo proposée à ceux qui en auront fait manifester l'envie, une table ronde autour du polar, de l'édition polar aujourd'hui, la proclamation des prix, des trophées que donnent chaque année les adhérents de 813, et puis l'assemblée des adhérents de l'association, où j'espère tu seras présent, cher Guy.
Eh bien, le rendez-vous est noté dans l'agenda et nous en reparlerons.
Oui.
Hervé, au sommaire de ce Variation en noir du mois d'octobre 2017, deux romans. Le premier est sorti un peu avant l'été, La Daronne de Anne-Laure Kerr aux éditions Métellier. Et le deuxième est tout chaud, Trois jours chez ma tante, un roman signé Yves Ravet aux éditions de Minuit. La tante du Ravet qui pourrait être une daronne, nous y reviendrons, tout comme Hervé, le fil rouge qui pourrait relier ces deux romans. Et c'est un hasard de programmation. la vie en maison de retraite. Donc nous reviendrons bien entendu sur tout cela dans un instant, mais avant tout, une triste nouvelle et un hommage donc que nous voulons rendre à Hervé Prudhon, mort le 15 octobre dernier. Hervé, tu as la parole.
La morve alluma sa 52e cigarette de la journée. Il ne la trouva pas vraiment plus dégueulasse que la première. Les 31 dents qu'il avait dans la bouche étaient vertes, et la 32e, perdue dans une rixe, retrouvée à quatre pattes dans la sciure, et depuis soigneusement conservée dans son porte-monnaie, celle-là était noire. Dans l'orifice disgracieux que son prélèvement brutal avait causé dans sa denture, il collait un chewing-gum de marque américaine, acheté dans les distributeurs automatiques du métro. Il en changeait chaque jour. Il avait calculé qu'à 10 centimes la gomme, et même en escomptant une inévitable hausse des denrées importées, il faudrait bien 10 à 15 000 jours, soit 30 à 45 ans pour égaler le prix d'une vraie dent en or. La mort ne comptait pas durer encore 30 ou 45 ans. Il traversait en dehors des clous, il pilotait son scooter les yeux fermés, il avait des bronches en papier carbone, il ne mangeait que du couscous en boîte, et 70% des Français étaient favorables à la peine de mort. Il en faisait partie, à sa manière. Voilà, cette lecture, c'est la première page de Tarzan malade, une manière assez originale de camper son personnage de Morvan, la morve, qui justement fait partie à sa manière des partisans de la peine de mort, tout bêtement, parce qu'il est tueur à gages dans ce roman. Et c'est avec Mardi Gris, paru en 78, et Tarzan malade en 1979, Hervé Prudhon faisait son entrée dans le polar français de l'époque. Et c'était une sacrée entrée dans ce contexte-là, parce qu'il arrivait, il y avait déjà eu évidemment Manchette, il y avait eu Vautrin avec Billy the Kick. Il y avait eu ADG, mais il n'y avait pas encore eu l'arrivée de Frédéric Fajardi. Et Hervé Prudhon débarquait avec, on va en parler sans doute, il parlait évidemment de la société d'alors, il parlait des cités, il parlait des banlieues, mais il avait surtout un sacré style, et c'est cela qui allait le caractériser. Guy, quel effet a fait Hervé Prudhon ?
Oui, bah écoute, il faut le dire que c'est vrai, quand on pense, bon, le polar, le néo, ce qui a été appelé le néo-polar, hein, avec Thierry Jonquet, Jean-Bernard Puy, tu l'as dit, Jean Vautrin, Didier Deninx, on parle moins souvent d'Hervé Prudhon, mais c'est une figure vraiment très singulière. Alors, on en parle peut-être un peu moins de Hervé Prudhon, parce que sa carrière littéraire, et notamment la série noire, a été peut-être discontinu, même sa carrière d'écrivain, mais néanmoins il occupe une place importante, hein, pour moi, dans cette génération. Il a été adoubé et reconnu par Jean-Patrick Manchette comme vraiment un auteur important de sa génération. Et c'est vrai que, bon, tu l'as dit, alors j'aime pas le mot, mais d'entrée de jeu, il y a un style. Enfin, Prudhon, c'est une écriture qu'on reconnaît très très rapidement. Il y a quelque chose. Nous allons parler, je sais pas ce que tu en penses, Hervé. Nous allons parler. Nous terminerons l'émission avec un roman de Yves Ravet aux éditions de Minuit. Aux éditions de Minuit, il y a actuellement un petit groupe d'auteurs, on pourrait qualifier d'auteurs de romans noirs, de polar, qui se distingue par une touche littéraire très particulière. Et je me dis que Prudhon, quelque part, il pourrait s'inscrire dans cette veine-là. Il aurait pu très bien écrire aux éditions de Minuit. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Hervé.
Oui, ça, je... Voilà, parce que effectivement, ou évidemment, où je te rejoins, c'est que on en a déjà parlé ici. Jean-Bernard Puy l'avait fait remarquer dans sa brève histoire du roman noir, mais enfin les éditions de Minuit, et ça n'empêche pas de les aimer, mais ça n'est pas que la ligne insufflée par les gens du nouveau roman, et puis le nouveau roman peut avoir marqué des écrivains en même temps que d'autres choses d'ailleurs, mais c'est aussi Jean Echenoz, Tanguy Viel et Yves Ravet dont on parlera, c'est-à-dire des romans qui évidemment flirtent avec les codes du roman noir et y apportent aussi toutes leurs touches et peuvent tout autant plaire aux passionnés de polar que des romans publiés en série noire chez Rivage ou ailleurs. Mais je pense que oui, ça aurait pu, bien évidemment. En fait, ces étiquettes éditoriales, elles importent pas trop. Il y avait un Manchette, justement, tu l'as cité, il sortait, Manchette a eu des mots un peu durs pour certains de ses collègues d'alors du Polar, qui pourtant se réclamaient souvent de lui, mais il avait mis Prudhon à part, ça c'est pas le problème, mais il disait quelque chose que je trouve assez juste, il disait, en parlant des premiers livres d'Hervé Prudhon, il s'agit bien de la même chose qu'ailleurs, la mer contemporaine, violente, les banlieues, mais dans un style remarquablement travaillé, et voilà ce qu'il disait, ce n'est pas seulement ça, pas simplement le creux feu d'artifice des jeux langagiers, ils sont sans cesse au service d'une émotion vraie et d'une vraie rage contre ce qui règne les apparences. À côté de l'inspiration, il fut supposé beaucoup de labeur, mais à côté du labeur, il faut croire à une vraie inspiration. Bref, la furia avec la maestria, c'est assez notable. Et c'était une belle manière de parler d'Hervé Prudhon, parce que dès ses premiers romans, et rappelons quand même qu'il a été donc un des tout premiers quoi, à révolutionner ce polar français, avant même que soit inventée l'appellation de néopolar, qui vaut ce qu'elle vaut. Ses inventions langagières, mais ce style à la fois très personnel, très percutant, cette langue chienne, un peu pour prendre le nom de son dernier roman publié à la série noire, il l'avait, c'est-à-dire que il parlait de la société, mais il y avait ça complètement imbriqué, c'est-à-dire que ça ne pouvait pas se séparer, la vieille distinction, le fond, la forme qui n'a pas de raison d'être. On peut signaler aussi de lui un autre roman, Nadine Mouk, qui avait obtenu le prix Louis Guillou, qui était les aventures d'un chômeur alcoolo, Polo Pouquette, dans la cité dortoir des Blattes. Il faut aussi... je pense que c'est intéressant de citer, il a écrit un poulpe dans le tout premier, Hervé Prudhon, c'était le numéro 20, ça s'appelait « Warzazat et mourir », avec un Gabriel Lecouvreur qui endossait les habits d'un SDF trucidé, et c'était un poulpe qui se décalait par rapport au reste de la... Des aventures de Lecouvreur qui s'y révélait un grand dépressif. Enfin, il y avait une grande originalité. On peut aussi parler de l'expérience théâtrale qu'il a faite avec le comédien et metteur en scène Jacques Bonafé, qui était son ami, qui était sur le monde hospitalier, comme des maladies. Voilà, et puis il y a effectivement La langue chienne, publiée à la série noire il y a moins de 10 ans, et que... Jérôme Leroy a eu la bonne idée de reprendre en poche dans une petite série de polars et autres qu'il dirige dans la petite Vermillon, et qui est ça aussi, c'est le talent d'Hervé Prudhon, c'est de partir d'un fait divers, un fait divers réel, un homme brûlé vif par sa femme et son amant, après qu'il a été souffre-douleur pendant tout un temps. Et l'écriture d'Hervé Prudhon transcende ça dans un roman qui est absolument magnifique, à mon avis. Et donc voilà, quoi, je dirais que, comme tu le disais, dans sa production, mais aussi de sa personne, Hervé Prudhon, c'était un homme discret, c'était un homme... élégant et surtout c'est une grande plume noire qu'il faut lire, relire.
Voilà. C'est ce qu'il faut dire hein, pour saluer donc Prudhon. La meilleure chose à faire, mais c'est de lire et de relire donc de son premier roman paru à la Série Noire, tu l'as cité, Mardi Gris, le dernier que tu as évoqué. Moi, j'avais aussi beaucoup aimé Vinyle Rondelle ne fait pas le printemps.
Également. Tout à fait. Une œuvre
en Série Noire,
assez rare, mais très précieuse.
Un regard vraiment très acéré sur notre société. Alors, Hervé, on va passer à notre premier livre hein, que nous avons souhaité évoquer aujourd'hui, La Daronne de Anne-Laure Kerr aux éditions Métellier Noir. Un regard aussi, on peut le dire, hein, sur un regard acéré sur notre société. Alors, moi, quand j'ai reçu le bouquin, il y avait un petit bandeau pris le point du polar européen 2017. Bon, des prix, on sait, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de romans qui sont primés. Et quand j'ai refermé le bouquin, je me suis dit qu'il aurait aussi pu obtenir, alors ça n'existe pas, hein, peut-être que ça existera un jour, mais le prix EHPAD hein, du polar, puisque bon, ce roman, c'est à la fois une plongée dans le quotidien et la routine du trafic de drogue du côté du point de vue des trafiquants, mais aussi du point de vue de ceux qui les poursuivent, qui essaient de les arrêter. Mais c'est aussi, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, une plongée hein, tout aussi efficace dans la routine et le quotidien des EHPAD et dans la relation des uns et des autres aux personnes âgées, aux parents qui ont perdu leur autonomie et parfois même leur raison, Hervé.
Oui, tout à fait. Moi, j'avais envie de... Enfin, si ça ne t'embête pas, de revenir un peu sur... d'abord, de dire deux mots
De l'auteur. Oui, bien sûr.
Qui, d'ailleurs, après ce prix qui lui a été décerné au Festival Quai du Polar, vient de recevoir... la semaine dernière, le Grand Prix de littérature policière pour La Daronne.
D'accord. Donc.
Et Anne-Laure Kerr, moi, ça avait été une vraie découverte, dans le genre un peu... un coup de foudre un peu, parce que c'était, je crois que c'était en... C'était au milieu des années 2000.
2004,
elle avait publié, Hervé. Elle est avocate, Anne-Laure Kerr. Et elle avait publié un premier roman assez court chez Métellier déjà, qui s'appelait Commis d'office, où elle mettait en scène un certain Leibovitz, une sorte d'avocat bas de gamme, toujours embarqué dans des histoires pas très valorisante, pas forcément gratifiante. Et il y avait eu comme ça une série de trois romans. Il y avait Commis d'office, Toile de maître, et puis le dernier, Ground XO, où on réalisait le lien qu'il pouvait y avoir entre notre cher cognac national et les gangsta rappeurs américains. Et c'était... le coup de foudre, c'était pour une raison précise, c'est que elle apportait dans le polar une drôlerie qui n'est pas si fréquente que cela. Et ses bouquins étaient très noirs, très caustiques, un peu dévastateurs par ça. C'était des livres où quand même, par moments, on était entre le sourire et l'éclat de rire. Et je crois que La Daronne est à la hauteur de ce plaisir-là.
Oui, voilà.
Je pense que tu l'as ressenti, ce qui n'empêche pas les notes plus d'une certaine tristesse ou d'une certaine sur des choses plus plus sombre, en tout cas.
Oui. Bon, il y a effectivement de l'humour, mais moi aussi, hein, j'avais été emballé par Commis d'office, parce qu'il y a, bon, dans le roman de procédure judiciaire, il y a eu beaucoup de choses hein, qui ont été faites, et il y avait une nouvelle touche, parce que bon, c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle, tu l'as dit, je pense qu'elle l'est toujours, hein, avocate pénaliste, donc elle a connu aussi ces situations d'avocat commis d'office, hein, et donc
Oui.
qui récupère les affaires les plus sordides, les plus avec les personnes inculpées dans les situations les plus sombres, les plus tristes. Et donc à la fois une trame très documentée, quelqu'un qui sait de quoi il parle, mais du recul et beaucoup d'humour. Là, on
Oui,
est moins
jamais
dans
sans
cette.
non plus de, comment dire, sans angélisme, sans
Oui, tout à fait, oui.
ressentiment obligatoire, tout ça étant dit avec une crudité très, évidemment très bien renseignée et aussi très réjouissante. Voilà, c'était, voilà, en cela, c'était vraiment du roman noir avec l'éclairage qu'il peut donner.
Voilà, donc là, quelque part, on quitte le tribunal, et donc on rentre dans un roman, dans une pure fiction, tu l'as dit, hein, où on sourit, on rit, il se passe des choses, on va pas raconter le détail de l'histoire, mais la daronne, c'est une dame qui travaille comme traductrice, interprète judiciaire, elle parle arabe, on va pas revenir sur son histoire, et donc.
Oh, on peut en dire deux, trois mots, oui.
Oui.
Mais, non, l'histoire familiale, il faut laisser le lecteur la découvrir. Elle est
Oui.
également, voilà, elle est à la fois croustillante, touchante aussi.
Oui, parce que bah, toute manière, c'est simple, hein, l'argent, le chapitre 1 est intitulé L'argent et le tout,
Oui.
et donc mes fraudeurs de parents aimaient viscéralement l'argent. Voilà comment commence ce roman, et il s'agit des parents de la daronne, donc hein, de celle qui.
Patience, quel joli prénom. Patience Portefeu. Patience parce qu'elle était née trop, elle était née trop tôt.
Voilà, et donc.
Elle était née trop tard, pardon. Non, non,
Ouais.
non, je crois. Il avait fallu l'attendre, je crois. Oui.
C'est ça. Et donc cette femme qui travaille, bon, c'est du boulot précaire, qui a un fiancé flic qui vient de prendre son poste comme commandant au stup. Comme ça, on se verra plus souvent. Et si ce commandant réjouit en lui annonçant la nouvelle, elle était contente pour lui. Mais à ce moment-là, elle n'était que donc une simple traductrice, interprète judiciaire. Elle n'avait pas encore, on peut le dire, une tonne de shit dans sa cave, puisque bon, hein, par le biais des conversations qu'elle est amenée à traduire, elle a pu bon mettre la main sur une.
Bah, d'autant qu'elle a quand même, il faut le dire, elle a 53 balais, elle
Ouais,
a deux
ouais,
filles
ouais.
qui évidemment ont besoin de sous. Et
Voilà.
là, ça rejoint ce que tu disais au départ, elle a une vieille maman qui est dans une comment
Une maison de retraite,
une
une
maison
EHPAD, hein.
de retraite
Un EHPAD,
à
peut-être.
évidemment plusieurs milliers d'euros par mois. Donc
Ah, et
voilà, donc
attention, on n'en est
elle
pas dans le luxe, hein, c'est pas une maison de
non.
retraite luxueuse. Hein, on y reviendra sur les maisons de retraite luxueuses.
Oui, si tu y tiens, bien sûr, bien sûr. Mais il y a quand même aussi, c'est ça aussi qui est fort, c'est que tout en comment dire, au passage, Anne Lorker, elle nous révèle quand même, à travers son personnage, que ce travail d'être interprète des écoutes, eh bien, est payé au noir. Il faut le faire quand même. Sinon, j'étais payé au noir par le ministère qui m'employait et ne déclarait aucun impôt. Un vrai karma, décidément. C'est d'ailleurs assez effrayant quand on y pense que les traducteurs sur lesquels repose la sécurité nationale, ceux-là même qui traduisent en direct les complots fomentés par les islamistes de cave et de garage, soit des travailleurs clandestins sans sécu ni retraite. Franchement, comme incorruptibilité, on fait mieux, non?
Non, non, mais c'est vrai que là aussi, on sent quand même effectivement toujours la réalité d'un système judiciaire policier avec ses failles, ses faiblesses. Et puis, aussi, tu l'as dit, quoi, bon, employer des personnes dans ces conditions-là, c'est aberrant, hein. On se demande comment on peut
Ah oui.
vivre dans une société qui fonctionne de cette manière.
Ah oui, là, oui, il y aurait peut-être des choses à dire sur la justice de ce pays, ça c'est possible. Mais
Donc,
il y a aussi des, voilà, au passage, avec toute cette histoire où c'est ça aussi, bon, il y a les moments désopilants, enfin il y en a plein hein, de toute façon, mais où quand par exemple elle raconte que quand même il va falloir vider sa cave de tu sais, tous les vieux meubles de famille, les trucs qui embarrassent, etc. Elle va faire venir des gars pour débarrasser tout ça, pour planquer quand même les kilos et les kilos de cannabis qu'elle commence à entasser, parce que malgré tout, dans l'appartement, d'abord, ça commence à occuper trop de place, et puis quand même, la résine, ça sent un peu quand même. Hein. Donc, voilà, alors tout ça, c'est quand même, on imagine la scène, c'est avec cette dame respectable de 53 balais quand même. Et puis voilà, et ça n'empêche pas aussi des choses particulièrement, comment dire, elle tape là où ça fait mal par rapport à avec des propos au vrai sens du terme, à mon avis, très politiques. Par exemple, quand elle dit, j'aimerais bien citer ce passage, 14 millions d'expérimentateurs de cannabis en France et 800 000 cultivateurs qui vivent de cette culture au Maroc. Les deux pays sont amis et pourtant ces gamins dont j'écoutais à longueur de journée les marchandages purgeaient de lourdes peines de prison pour avoir vendu leur shit aux gosses des flics qui les poursuivent, à ceux des magistrats qui les jugent ainsi qu'à tous les avocats qui les défendent. Du coup, ils devenaient amers et haineux. On ne m'enlèvera pas de l'esprit, même si mon ami flic m'affirme que je me trompe, que cette débauche de moyens, cet acharnement à vider à la petite cuillère la mer de shit qui inonde la France est avant tout un outil de contrôle des populations en ce qu'elle permet de vérifier l'identité des Arabes et des Noirs 10 fois par jour.
Voilà,
Voilà.
donc.
Anne Lorquer fait aussi des remarques comme celle-là.
Donc, vraiment à lire la Daronne, à découvrir. Il y a aussi une rencontre avec la communauté asiatique là,
Oui.
qui occupe l'immeuble où vit la
Il y
Daronne.
a,
Elle
y
a
a,
des
y a
relations
ça,
étonnantes.
il y a une, y a, dans mon sou, dans le souvenir, il y a aussi une scène où quand elle se rend sur les lieux pour récupérer. La cam, elle se rend dans une espèce de grand magasin, genre Tati à Barbès ou un truc comme ça. Enfin, il y a des scènes absolument, oui, qui sont assez inoubliables, qui sont assez désopilantes. Et en même temps, comme tu le dis, il n'y a pas, il y a tout cet humour, toute cette toxicité, mais il y a aussi toute cette force d'évocation, il y a effectivement les EHPAD à travers là où est sa mère, il y a un constat, voilà, c'est aussi un regard très acéré sur le monde où nous vivons.
Alors donc, on conseille bien entendu hein, ce roman qui, mais tu nous l'apprends, Hervé a obtenu donc le grand prix des littératures policières, c'est bien ça?
Oui, le Grand Prix de littérature policière, un des plus vieux prix donnés en France, voilà, ça, il lui a été remis jeudi dernier à la Bistro. Voilà, donc c'était une bonne chose. Et puis il faut souligner quand même justement cette espèce de verve, cette satire, vraiment en plus, cette espèce de joyeuse immoralité qui respire dans les romans d'Anne Lorquer et dont on va peut-être, ça peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, il y a peut-être un pendant avec un tout nouvel auteur qui s'appelle Jackie Schwartzman et son Demain, c'est loin, qui vient de sortir au Seuil. Ça, c'est aussi des gens qui amènent de l'air et un souffle dans le polar.
Anne Lorquière, la daronne au métellier noir.
I say nothing. I can see. I can speak. But I've seen everything. I've heard everything. I'm still like a feather for each wind that blows. Je suis un vieux motherfucker. Je suis un old motherfucker.
Alors, Hervé, comme d'habitude, nous avons eu les yeux plus gros que le ventre, hein, avec un programme bien chargé. C'est vrai que parler de Hervé Prudhon et du roman, du dernier roman d'Anne Lorquière, eh bien, ça demande...
Écoute, je ne regrette pas qu'on ait parlé quand même, y compris un peu longuement, comme tu l'avais proposé, d'Hervé Prudhon.
Oui.
Comme tu dis, ce n'est pas quelqu'un dont on parlait tant que cela, et c'est important puisque, bah, évidemment, d'accord, il n'est plus, mais il y a des livres, et puis je crois qu'Anne Lorquière le méritait bien. Et par ailleurs, disons-le tout net, Yves Ravet, dont on a déjà parlé ici, mérite autre chose, effectivement, que d'être expédié en 30 secondes.
Voilà, c'est ça. Donc, bon, j'ai quand même choisi ce morceau d'Arnaud qui peut peut-être illustrer un peu le personnage du roman Marcello Martini, du roman donc, 3 jours chez ma tante, un extrait du dernier disque de Arnaud, I'm just an old motherfucker, mais écoute, on en reparlera, Hervé. Hein,
le roman... Alors, il y a ceux qui connaissent déjà Yves Ravet, il y a ceux qui peuvent le découvrir avec ce livre, mais que c'est à nouveau, enfin on n'a pas eu l'occasion d'en parler encore toi et moi, c'était là, mais c'est encore à nouveau un régal, enfin c'est un auteur, je crois quand même qu'à partir du moment où on a commencé à lire Yves Ravet, on y prend goût et on suit, quoi, parce que je
sais
pas ce que tu en penses.
Ah oui, mais bien sûr. Hein. Donc, ce 3 jours chez ma tante, bon, c'est un titre assez surprenant, mais qui correspond tout à fait à ce qui se passe. Et, mais, écoute, on en reparle le mois prochain, Hervé.
Donc, écoute, avec grand, grand plaisir.
Voilà, c'était Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'Association des Amis des Littératures Policières, et en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Eh bien, au revoir Guy, au revoir Bernard, merci à vous tous.
Voilà, et rendez-vous donc dans un mois avec, entre autres, Yves Ravet, 3 jours chez ma tante aux éditions de Minuit. Rendez-vous dans un mois pour de nouvelles variations en noir. Très bonne lecture en noir à toutes et à tous. It's just...